Bienvenue dans la série spéciale « Développeurs en 2039 ». Mon but est de te faire réfléchir à notre monde d'aujourd'hui en se projetant dans l'avenir. Cette série comporte 20 épisodes que je t'invite à suivre dans l'ordre. Prêt ? C'est parti ! Dans l'épisode d'hier avec Christophe, on a vu que l'entreprise avait un rôle important à jouer dans notre apprentissage. Justement, cette entreprise de 2039, à quoi ressemble-t-elle ? Existera-t-il encore des grosses boîtes comme aujourd'hui ? Ou reviendrons-nous à quelque chose de plus artisanal? Je suis retourné parler de ces questions avec Isabelle Cham, qui a elle aussi fait un exercice de prospective. Quel sera l'impact de la technologie sur l'entreprise? Quelle sera sa physionomie? Bienvenue dans l'épisode 14 de la série Développeurs en 2039. Si cet épisode te plaît, eh bien je t'invite à le partager, surtout s'il te donne à réfléchir. Si tu as envie d'échanger, de me faire du retour aussi, tu peux m'envoyer un email benoît@artisandeveloppeur.fr. Sans plus de transition, je te propose d'écouter mon échange avec Isabelle. Aujourd'hui, je suis avec Isabelle Cham. Isabelle, bonjour.
Bonjour. Bonjour Benoît.
Dans le cadre de la série Développeurs en 2039, j'avais envie de t'interviewer parce que je suis tombé sur tes articles LinkedIn. Et notamment aujourd'hui, je te propose qu'on parle de à quoi peut ressembler le monde du travail de demain. Tu parles à un moment donné dans ton article de... Une vague sans précédent de personnes s'est lancée dans l'entrepreneuriat individuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois le monde, essayons de nous imaginer dans 20 ans, tu le vois comment ce monde avec beaucoup d'indépendants qui ont repris une forme de travail un petit peu délaissée, comment tu vois les choses?
Alors, peut-être faut-il que je me présente avant de répondre à la question.
Excuse-moi, j'ai oublié de te demander. Oui, je suis rentré dans le vif du sujet à fond et vas-y, excuse-moi. Qui es-tu? Que fais-tu?
Bon, moi, je suis la fondatrice d'une académie en ligne pour les milieux de carrière à qui je propose du mentoring et de la formation pour passer ce cap de vie qui est un peu particulier et surtout dans le cadre des mutations actuelles que l'on connaît par rapport au travail. Et puis, en parallèle de ça, je travaille dans un think tank dans lequel nous avons un laboratoire sur l'avenir du travail, sur le futur du travail. Laboratoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous faisons des enquêtes auprès des entreprises pour établir quels sont les principaux défis qu'elles ont à traiter aujourd'hui pour pouvoir faire évoluer les carrières, les compétences et tout ce qu'il faut pour s'inscrire dans le futur du travail. Donc, c'est à partir de, je dirais, de ces deux activités que je vais pouvoir te répondre aujourd'hui. Donc, tu me demandes à quoi ressemble du travail de demain. Alors, je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est que nul ne le sait aujourd'hui. Moi, quand j'interroge tous les dirigeants à travers l'enquête ou mes coachés à travers mon activité, je sens bien que tout le monde tâtonne, tout le monde cherche. C'est extrêmement complexe de définir le monde du travail de demain. Bon, il y a quand même des choses qui sont de plus en plus claires aujourd'hui, à savoir que la robotisation, l'IA et d'une façon générale la convergence des technologies va bousculer le monde du travail. Dans un des articles que tu as mentionné rapidement, je ne sais pas si tu as vu la statistique que je rapporte du World Economic Forum, qui a chiffré que d'ici 2025, plus de la moitié des tâches actuelles réalisées sur le lieu de travail seront effectuées par des machines ou des algorithmes contre 29% aujourd'hui. Donc, ça fixe un petit peu les choses. Cette étude dit aussi que le solde entre la création et la destruction des emplois devrait quand même rester positif, c'est-à-dire 133 millions d'emplois d'ici 2020 contre 75 millions qui seront affectés par les mutations actuelles. Donc, je pense que d'une façon générale, par rapport à l'avenir du travail, on peut rester optimiste. Mais il est évident qu'il y a des pans entiers de métiers qui vont disparaître au profit de métiers qui vont naître et dont on ne connaît pas du tout les contours aujourd'hui.
Donc, ce que tu dis là, c'est que les mutations telles que l'intelligence artificielle, la robotisation vont effectivement détruire du travail, des postes, mais qu'il y en aura quand même plus qui vont se créer a priori.
Bah, d'après le World Economic Forum, oui, et c'est une des statistiques les plus récentes et je trouve une des plus optimistes. Alors plutôt que de balancer des chiffres qui sont généralement très négatifs et anxiogènes, je pense qu'il vaut mieux se baser sur sur des études de ce genre. Bon, on l'a vu déjà dans l'histoire, d'une façon générale, les mutations de ce genre que l'on a vécues ont toujours donné lieu à plus d'emplois que de pertes d'emplois. Mais c'est vrai que ça remue beaucoup le tissu social d'une façon générale et on ne va pas y échapper cette fois-ci non plus.
Ouais, c'est la grande question qui revient toujours, oui. Quel sera le niveau de ces emplois et qu'est-ce qu'on fera des gens qui n'ont pas forcément d'emploi, de qualification et qu'est-ce qu'on fera avec eux, quoi, en fait.
Alors, ça, c'est la big question. Mais je dirais pour les dirigeants aussi que j'interroge et que mes pairs interrogent. Beaucoup relatent le fait que ben, voilà, c'est maintenant que ça se joue. Il faut savoir gérer les compétences. Il faut savoir créer de la formation en alternance. Il faut remettre l'éducation à plat. Enfin, bon. Toutes les bonnes recettes y vont, mais la vérité, c'est que tout le monde est conscient de l'urgence, mais les véritables actions, elles se mènent surtout dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, pas tellement sur le plan, je dirais, national ou politique, malheureusement.
Ça, cette vision de l'entreprise qui pousse la société, c'est une vision que je partage. La question que je me pose, c'est, si on revient à la question initiale, parmi ces emplois qui seront donc créés, comment tu les vois ? Tu les vois agglutiner sous forme d'entreprises, de nouvelles entreprises, parce qu'à un moment donné, dans tes articles, tu dis les entreprises, les grosses boîtes d'aujourd'hui n'existeront plus demain. Ça veut dire que tu vois comment les choses demain. Tu vois des travailleurs indépendants qui s'assemblent et qui se rejoignent pour un projet et puis se séparent. Tu vois des petites boîtes.
Non,
tu
attention,
vois des...
dans l'article, je ne dis pas qu'il n'y aura plus de grandes entreprises. Je dis que le modèle des grandes entreprises sera dépassé. Alors déjà, pour situer cet article, c'est un article où je me suis exercée à un exercice de futurologie pure, où j'écris un cybercourrier d'un interlocuteur qui nous écrit dans 10 ans et qui nous dit « Merci, vous avez pris les bonnes initiatives concernant le travail. On est beaucoup plus heureux aujourd'hui tel que nous concevons le travail, mais nous aimerions savoir comment vous avez pris les bonnes décisions au bon moment pour pouvoir révolutionner ce mode opératoire. » Et puis, je me livre à toute une forme d'exercice pour décrire ce que sera le travail en 2020. Donc, effectivement, dans cette perspective, ce que j'essaye de montrer, c'est que, et puis ça se joue aujourd'hui, je n'invente rien pour le coup sur ce qui est en train de se mettre en place, que je mets en perspective, c'est que par lassitude et puis désordre lié aux mutations, beaucoup de gens quittent l'entreprise et se mettent en statut indépendant, que ce soit auto-entrepreneur, entrepreneur, etc. Ce qui est déjà une réalité en soi et ce qui va avoir un impact fort dans l'avenir. Parce que qu'est-ce que ces gens vont apprendre en devenant entrepreneur ? Ils vont apprendre l'autonomie. Ils vont apprendre l'innovation, la création, la rupture permanente. Ils vont apprendre l'autogestion. Ils vont apprendre à recruter éventuellement ou à travailler en affiliation. Ils vont apprendre le financement et le développement de leur entreprise. Donc, tout ça, ce sont des compétences qu'on ne trouve pas globalement aujourd'hui chez les salariés. Si il y a une masse de personnes qui se livrent à cet exercice d'indépendance dans les années à venir, ça va forcément d'ores et déjà changer les attentes vis-à-vis des grandes entreprises et vis-à-vis du monde salarial en particulier. Donc c'est ça que je dis dans l'article. Ce que je dis aussi à travers cet article, toujours ce cybercourrier, cet exercice de futurologie, c'est que pour moi les gens vont revenir au salariat. Le salariat n'est pas mort en tant que tel. Il y aura des alternances entre l'entrepreneuriat, entre le salariat, entre parfois des formes aussi sociales et solidaires de travail, donc d'autres formes de contribution. Mais quoi qu'il en soit, le comportement vis-à-vis de la grande entreprise et du salariat et l'attente vis-à-vis des grandes organisations va changer, ça c'est certain. Il faut que ces organisations s'y préparent aussi.
Eh ben, écoute, je te remercie, je te propose que ce soit le mot de la fin. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur ton travail, ils peuvent venir où ?
Alors, ils peuvent venir sur sparklifesuccess.com, qui est le site sur lequel il y a un blog et sur lequel ils trouveront tous les articles, compris ceux que je publie sur LinkedIn.
Merci Isabelle.
Merci, à bientôt.
Bon, visiblement, si on en croit les économistes, on va créer plus de travail qu'on va en détruire. Mais des pans entiers vont devoir s'adapter. Les grandes boîtes resteront là et le salariat aussi. Mais les attentes vont changer. Et on fait quoi pour préparer la transition ? Comment on forme les jeunes de demain ? Comment les gens pourront s'adapter et se former ?
Finalement, ces questions restent largement ouvertes. Donc en gros, on ne sait pas trop où on va et c'est pas grave. J'aime l'optimisme que dégage Isabelle. Car finalement, quand on ne sait plus anticiper les choses tant le monde est devenu complexe, ce qui compte le plus, c'est le regard qu'on porte dessus. Les récits que l'on projette dans l'avenir. Et il vaut mieux toujours faire quelque chose pour essayer d'améliorer la situation que subir totalement. Donc restons résolument optimistes. Merci Isabelle, sans mettre la tête dans le sable. Demain, je continuerai ma route en retournant échanger avec Christophe. J'avais envie de creuser cette dimension de l'impact technologique. On en avait déjà un peu parlé avec Stan Leloup sur l'opportunité que crée la technologie pour développer un business. Demain, j'en parlerai avec Christophe qui baigne dans l'univers des startups et il voit les choses en grand, ou pas justement. D'ici là, je t'invite à rejoindre la communauté des artisans développeurs sur artisandeveloppeur.fr et maintenant, place à la fiction. À demain.
Bon, le conseil du village vient de se terminer.
Bon, et alors?
C'est bon, vous êtes accepté.
Ah, génial.
Enfin, à titre probatoire.
Quoi? Ça veut dire quoi?
On a eu des nouvelles qui ont un petit peu bouleversé le calendrier et l'agenda de la réunion. Donc, on a traité rapidement votre cas, mais bon, tout le monde avait l'air globalement d'accord.
Et ces nouvelles, bonnes ou mauvaises?
On va dire bonnes, enfin, en apparence mauvaises. L'usine des géoprotections va décupler sa production, alors le nuage ne suffit plus. Alors, il le densifie.
Ben, en quoi c'est une mauvaise nouvelle pour nous? On est à plus de 100 km de l'usine.
Bah, le nuage arrivera jusqu'ici, et sans la filtration Atlantis, bah, il est toxique. Mais t'avais jamais remarqué que l'air d'Atlantis était filtré en permanence?
Ben, non, pas vraiment. Mais t'avais l'air de dire que c'était peut-être pas une mauvaise nouvelle?
Bah, disons que l'usine va être à l'arrêt pendant quelques jours, alors c'est toujours ça de gagner. Mais surtout, pendant la mise à jour, le site sera beaucoup plus vulnérable. La sécurité est chambardée, alors. Et en plus, ils font appel à beaucoup d'externes pour accélérer. Et on a quelques amis là-dedans.
Tu vas en venir où?
Bah, toutes les conditions sont réunies pour agir.
Agir? Mais pour faire quoi?
Accroche-toi. Pour faire sauter l'usine.
Faire sauter l'usine? Mais comment vous comptez vous y prendre?
Moi, je sais pas encore. On y réfléchit.
Comment est-ce que je peux aider?
Bonne question. Je ne me l'étais pas posée, celle-là, tiens. Mais ça va être dangereux.
Bah, je m'en doute. Je peux vous aider à rentrer dans le système de sécurité.
Attends, quoi? Le cœur du réseau?
Ouais.
Mais ça, voilà qui ouvre quelques possibilités intéressantes. Mais comment tu vas faire?
Ce con d'Orthez m'avait filé les clés pour que j'étudie le dossier. Il était tellement sûr de son coup, cet abruti.
Quel con. Il les a pas récupérés?
Si, bien sûr. Mais je les avais copiés avant. Je me suis dit que ça pouvait être utile un jour.
Alors là... Eh bien, on va en parler à François. Il va aimer ça.
Mais il doit dormir alors qu'il est, non?
Non, t'inquiète pas, ça, j'en doute.